Arnaud Diemer, bonjour.
Bonjour.
Économiste, maître de conférence à l'Université de Clermont-Ferrand, merci d'être avec nous ce matin. Vos travaux de recherche s'intéressent depuis plusieurs années maintenant au rapport entre l'écologie et l'économie, deux domaines inextricablement liés, à tel point que même le Forum économique de Davos s'inquiète des changements climatiques dans un rapport qui appelle à agir au plus vite. Alors, est-ce que cet intérêt soudain du Forum de Davos pour le climat a un rapport avec ce qui s'est passé ces derniers mois aux États-Unis? Je fais bien sûr référence à Sandy, cet ouragan qui a ravagé la côte Est.
Oui, il y a un lien direct, hein, puisque aujourd'hui on évalue l'incident climatique à pratiquement 60 milliards de dollars. Et là que Davos s'intéresse à ces questions, montre bien aujourd'hui que les grands argentiers du monde se posent la question du climat et de ses conséquences dans un contexte, on le rappelle, où les finances publiques sont relativement faibles, donc la relance, on n'y compte pas beaucoup, et où les finances privées vont être mises à contribution. Et c'est peut-être l'intérêt du rapport de souligner la contribution nécessaire des finances privées.
L'intérêt de ces rapports, c'est qu'ils montrent aussi qu'il y a un coût à l'inaction. L'économie mondiale déjà perdrait à peu près 1,6% de son PIB par an en raison de cette inaction face aux conséquences du réchauffement global.
Oui, si vous voulez, à chaque fois les rapports sortaient en montrant ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait investir. Et on a plusieurs rapports qui montrent bien que le coût de l'inaction est rédhibitoire. Je rappelle que juste les risques climatiques signifieraient aujourd'hui qu'il faudrait investir pratiquement 700 à 800 milliards de dollars par an. Juste les risques climatiques. Je ne tiens pas compte ici du changement qui pourrait toucher l'agriculture, l'eau, les transports. Donc imaginez que ça puisse coûter autant par an. Je rappelle que 700 milliards, c'est pratiquement 3 fois le PIB français. Donc ça signifie qu'effectivement, on doit intégrer le coût de la non-activité et surtout mettre en place les mesures souhaitables pour pouvoir changer l'alternative.
Parce que ces mesures, si elles sont en place, on ne le répétera jamais assez, elles peuvent être créatrices de richesses, créatrices d'emplois et installer un nouveau modèle, on va dire.
C'est ce qui est proposé dans le rapport. Les premières choses qui sont évoquées, c'est effectivement tenter de sortir du marasme économique et de lancer un nouveau modèle. Et dès qu'on parle de nouveau modèle, bien sûr, il y a un thème qui revient, c'est comment verdir l'économie, comment la rendre plus adéquate au niveau environnemental et capable effectivement de drainer de la croissance, donc de relancer de la croissance, et puis en même temps de créer des échanges. On sait qu'aujourd'hui, on peut échanger un grand nombre de produits verdissants. Et ces produits verdissants doivent drainer aussi bien de l'emploi. On sait que beaucoup de pays européens sont en mal d'emploi. Donc on compte beaucoup effectivement sur ce rapport pour relancer la croissance et dynamiser un petit peu nos modèles.
Quand on parle de priorité à l'action, de verdissement de l'économie, c'est un discours que l'on entend déjà depuis plusieurs années et on voit que peu de choses avancent. Est-ce que le fait que, j'allais dire, le temple du libéralisme prenne aujourd'hui la mesure du phénomène et de ses conséquences, peut amener à une prise de conscience supplémentaire, selon vous?
Disons que la prise de conscience, elle repose quand même sur, non plus aujourd'hui, des prévisions, mais des estimations avec des scénarios. Autrement dit, si vous regardez tous les rapports, je pense, on peut parler du rapport du Forum, mais le rapport de la Banque mondiale, c'est clairement état de scénarios de hausse climatique à 2, 3, voire 4 degrés. Et on voit que ces 2, 3 ou 4 degrés de plus génèrent des coûts extrêmement élevés. Mais les deux questions cruciales, ça va être effectivement la gestion de l'eau. On sait aujourd'hui qu'à l'horizon effectivement 2020, il faudra augmenter les capacités de 50% et à 2050 encore plus. La même chose pour l'agriculture, il faudra multiplier par 2. Alors pour certains, c'est possible parce qu'aujourd'hui, on pourrait recapitaliser un grand nombre d'outils de production. Autrement dit, permettre à des pays qui aujourd'hui produisent à faible capacité de produire plus, mais on voit bien la contrainte forte qui pèse sur ces deux secteurs. Je rappelle qu'en termes de montant, on estimait qu'il fallait pratiquement investir entre 1300 et 1500 milliards de dollars par an dans le secteur de l'eau. On sait que ce sera le secteur crucial dans les 20 à 30 années qui viennent. Or, si on regarde les chiffres aujourd'hui, là où on investit le plus, c'est dans l'énergie fossile. Autrement dit, malgré les beaux discours, la croissance et la pression est très forte aujourd'hui sur l'extraction de pétrole et de gisements pétroliers ou de gaz. Et ça, c'est gênant parce que ça montrerait aujourd'hui qu'on n'est pas capable de faire la transition. Alors, il y a une explication, c'est les marchés financiers. Les cours du pétrole étant tellement élevés aujourd'hui qu'ils permettent d'aller investir même dans des zones où ça coûte très cher. Donc moi, je suis un petit peu gêné sur le mode de fonctionnement aujourd'hui. C'est que malgré tous les discours, on continue à investir énormément dans cette source.
Arnaud Diemer, économiste, maître de conférence à l'université de Clermont-Ferrand, merci d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir éclairés.
Merci.